If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vous me demandez de comparer ce qui est comparable. Il y a eu à Nantes 132 augmentations d'effectifs de police nationale, passant de 677 policiers à 809 policiers dans le quinquennat précédent, dont 70 rien que la dernière année. En revanche, nous pouvons constater qu'effectivement, si on prend des villes comparables, Montpellier par exemple, quand il y a 339 caméras de vidéo à Montpellier, il n'y en a que 145 à Nantes. Et lorsqu'il y a 182 policiers municipaux à Montpellier, il y en a 126 à Nantes. J'ai pris Montpellier pour qu'on puisse voir effectivement la même couleur politique, évidemment avec un même nombre de populations. Je recevrai Mme la maire de Nantes après les questions au gouvernement. Je veux lui assurer que nous trouverons ensemble, je l'espère, les moyens d'assurer la sécurité de l'agglomération nantaise en l'encourageant à mettre davantage de caméras de vidéoprotection, en embauchant davantage encore de policiers municipaux. Et avec la Première ministre, nous avons décidé pour 2023 l'arrivée d'une unité de CRS de 200 effectifs supplémentaires à Nantes. J'espère que ceux qui crient voteront les budgets du ministère de la Police dans quelques jours.
Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Monsieur Bellamiti.
Merci, Monsieur le Ministre, pour ces éléments factuels et chiffrés. Effectivement, le vote du budget 2023 donnera l'occasion à notre Assemblée de concrétiser vos propositions en matière d'augmentation de moyens de police et de justice. Nous verrons qui sera au rendez-vous. Merci.
Je vous remercie. La parole est au Président Vallaud pour le groupe socialiste.
Merci, Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, nous avons appris hier que le garde des Sceaux, mis en examen depuis juillet 2021, était renvoyé devant la Cour de justice de la République. Il a fait un pourvoi en cassation. En 2017, le candidat Emmanuel Macron, aujourd'hui président, affirmait que tout ministre mis en examen devrait démissionner. Je voudrais savoir ce que vous pensez aujourd'hui de cette déclaration.
Je vous remercie. Madame la Première ministre.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Boris Vallaud. Alors j'ai pris acte de la décision rendue hier dans le cadre de la procédure engagée contre Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République. Et voyez-vous, je ne crois pas qu'il soit démocratiquement sain que des décisions de l'autorité judiciaire soient commentées ici, dans l'enceinte du pouvoir législatif, par un membre de l'exécutif. Et je le rappelle, l'indépendance de l'institution judiciaire est un principe cardinal de notre démocratie. La présomption d'innocence en est un autre pilier. J'ai pleinement confiance dans notre démocratie et dans notre justice.
Je vous remercie. Président Vallaud, s'il vous plaît.
Madame la Première ministre, je vois poindre, et peut-être vous avec moi, un conflit d'intérêts. Dans quelques mois, l'actuel procureur général près de la Cour de cassation prendra sa retraite et le président de la République lui nommera un successeur sur avis du garde des Sceaux, ici justiciable. Il y aura deux difficultés, Madame la Première ministre. D'abord, ce nouveau procureur général aura à connaître probablement du pourvoi en cassation du garde des Sceaux. Il aura, s'il était décidé d'un renvoi devant la Cour de justice de la République, à connaître de l'affaire qui occupera à nouveau le garde des Sceaux justiciable. Dans quelle démocratie peut-on d'une certaine manière participer au choix de ces magistrats? Je vous pose la question dans un souci, je pense, partagé d'indépendance de la justice, de respect de tous les droits, y compris ceux de la défense, et j'y vois aussi une condition de présomption d'innocence.
Je vous remercie. Madame la Première Ministre.
Alors, pour répondre à votre question, d'une part, je voudrais noter que, contrairement à ce que certains peuvent soutenir, le garde des Sceaux n'est pas empêché. Le ministère de la Justice fonctionne, il est pleinement engagé, il avance, il se transforme, il voit ses moyens renforcés à un niveau inédit, il se déploie sur l'enjeu de sécurité, de justice du quotidien, pardon, et il participe pleinement à la mobilisation de mon gouvernement contre la délinquance. Mais par ailleurs, Je vous précise également qu'un dispositif de déport a été mis en place. Le principe est simple, il n'y a aucune interférence et il n'y aura aucune interférence dans le suivi des dossiers dans lesquels le garde des Sceaux est impliqué, soit en tant que justiciable, soit dans ceux dont il aurait pu connaître en tant qu'avocat. Ce dispositif est exigeant, il me conduit à piloter directement une série de sujets et vous aurez certainement pu constater dans les dernières semaines que seul l'intérêt général et l'exigence d'impartialité guident les décisions du gouvernement. Je vous remercie.
Je vous remercie, Madame la Première Ministre. La parole est à Monsieur Sébastien Jumel pour le groupe GDR.
De retour au plateau. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Vous avez suivi depuis un peu plus d'une demi-heure maintenant ce début de session parlementaire avec la première séance des questions au gouvernement pour cette rentrée parlementaire et qui donnait un petit peu, vous l'aurez senti, le ton de ce à quoi on risque d'avoir droit chaque semaine avec beaucoup d'invectives, des chahuts de part et d'autre de l'hémicycle et des sujets d'actualité très sérieux. L'un d'entre eux vient d'être abordé, on va le commenter ensemble avec vous. Ludovine de la Recherche, vous êtes l'une de mes invitées aujourd'hui. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Jean Messia est là également et Jean Garrigue à vos côtés. Alors vous avez entendu à l'instant la question de Boris Vallaud en l'espèce sur le cas d'Éric Dupond-Moretti avec ce renvoi en procès qui a été décidé par la Cour de justice de la République. Et cette question, devrait-il démissionner? La réponse d'Elisabeth Borne qui insistait un petit peu alambiquée, cette réponse sur l'indépendance de l'institution judiciaire, sur la confiance dans la justice, et qui finalement, relancée sur la question, dit « Eh bien, le garde des Sceaux n'est pas empêché ». Ludovine de la Rochère, réaction.
Alors d'abord, je note que dans la première partie de sa réponse, Elisabeth Borne lisait au mot près un papier qu'elle avait sous les yeux. C'est dire à quel point elle était mal à l'aise. Elle a fait préparer des éléments de langage, c'est assez classique, mais elle ne décollait pas des 10 éléments de langage. Donc elle sent bien qu'elle est sur une ligne de crête plus que compliquée, pour ne pas dire que la ligne rouge est franchie. Et dans la deuxième partie de sa réponse, elle dit, parce que c'est vrai que la question est de se demander comment des juges peuvent juger leur supérieur hiérarchique, qui est le ministre de la Justice, dont leur carrière dépend, dont leur revenu dépend, dont leur statut dépend, etc. Et là, la première ministre dit, il n'y aura pas d'interférence, et elle explicite, sur tout ce qui concerne le justicier Dupond-Moretti, c'est en fait elle qui se situera à ce moment-là, au-dessus des juges. Donc, il y a bien un problème. On est obligé déplacer une partie des responsabilités de M. Dupond-Moretti pour que ça n'ait pas l'air d'être finalement une situation dans laquelle...
Donc, pour vous, la réponse est oui, il doit partir dans ces circonstances.
C'est la logique même, et c'est la logique des institutions. Et puis, il y a le sens de l'honneur quand même. On peut en parler aussi.
On se souvient d'une déclaration, je crois, d'Emmanuel Macron, Jean Messia, qui avait été télévisée, que j'ai vu passer sur Twitter hier, il y a quelques années, au début, je crois, de son premier quinquennat, où il disait, mais bien sûr, dès qu'un ministre ou quelqu'un en fonction, s'il y a le moindre doute, il faut qu'il s'en aille. Il y a aussi le cas Alexis Kohler, aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée.
Il y a le cas aussi de Dupond-Moretti lui-même, qui avait dit, effectivement, dans une vidéo, que jamais personne ne lui proposerait le poste de ministre de la Justice, et si, le cas échéant, il le refuserait, évidemment, parce qu'il n'était pas fait pour ça. Donc, vous voyez... les déclarations des uns et des autres, on peut souligner les contradictions. Non, ce que je constate dans plus globalement, dans cette première séance de questions au gouvernement, c'est une atmosphère survoltée, mais qui n'est rien d'autre que le reflet capitonné, finalement, de la violence, de la cocotte minute qui est devenue aujourd'hui la France. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, sur le cas Dupond-Moretti, je m'étonne, si vous voulez, que ce pouvoir macroniste qui ne cesse d'exciper de l'état de droit pour tout et n'importe quoi, en disant « nous sommes l'état de droit, nous sommes des gens de la probité, les représentants, les parangons de l'honnêteté, de la loyauté, etc. en politique », eh bien c'est deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que si ça avait été exactement le même cas, mais pour un autre gouvernement d'une autre couleur, ça aurait été les premiers à se lever en masse pour dénoncer effectivement le fait qu'Éric Dupond-Moretti dans ces conditions ne démissionne pas. Là, évidemment, alors vous me direz « c'est de bonne guerre », mais quand même, il y a un problème à toujours se prévaloir d'un droit et d'une morale qu'on ne s'applique jamais à soi-même. Ça, je pense que les Français ne le supportent plus.
C'est vrai que ça transcende un peu la classe politique en ce moment. On en a beaucoup d'exemples et on y reviendra dans le détail. Un dernier mot, peut-être sur votre appréciation, Jean Garrigue, de ce cas d'espèce, puisque c'est quand même récent, ce renvoi en procès pour Éric Dupond-Moretti. Et il se trouve que le gouvernement est interpellé pour la première fois. Il a l'occasion de répondre sur la question aujourd'hui.
Oui, alors je suis moins comment dire, catégorique que mon voisin sur l'atmosphère survoltée de l'Assemblée, parce que les questions au gouvernement nous ont habitués à ce genre de scène. Et quand on connaît un peu l'histoire parlementaire, il y a eu des choses beaucoup plus survoltées qu'aujourd'hui. Mais pour revenir au sujet, j'ai noté que mes camarades n'étaient pas des chauds partisans du gouvernement d'Elisabeth Borne, ça me paraît clair. Mais là-dessus, je suis d'accord avec eux. Je pense qu'il est logique, il est cohérent que l'argument d'ailleurs déployé par Boris Vallaud pour le Parti Socialiste me paraît tout à fait cohérent. Il y a un risque de conflit d'intérêts. On ne peut pas être à la fois juge et parti, être dans la hiérarchie de ceux qui seront appelés éventuellement à vous juger. Donc moi, il m'apparaîtrait quand même raisonnable que le garde des Sceaux prenne du recul, éventuellement qu'il soit mis en suspens de ses fonctions, si on ne conduit pas à la démission. Mais je ne comprends pas effectivement qu'on ne le pousse pas à démissionner. Et d'ailleurs, et là je rejoins ce que disait Jean, ça fait quand même plusieurs quinquennats. Je me souviens de Nicolas Sarkozy, je me souviens même de Pierre Bérégovoy qui est arrivé au pouvoir en 1992, si je ne m'abuse, en disant qu'il allait résoudre tous ses problèmes et faire une république débarrassée de toutes ses déviances. Bon, ça n'a jamais fonctionné, ni chez Sarkozy, ni chez Hollande, ni chez Macron. Donc je crois qu'il faut prendre des habitudes, il faut que les pouvoirs publics en France, que l'exécutif soit aussi rigoureux que le sont, par exemple, les exécutifs en Scandinavie ou ailleurs.
Alors, sur l'atmosphère qui règne, quand même, un mot. Vous trouvez que effectivement, on est juste dans un scénario un peu classique où on a franchi quand même un nouveau cap avec cette nouvelle recomposition, on rappelle, hein, de l'Assemblée nationale.
Alors là, dans l'échange auquel on vient d'assister entre la Première ministre et M. Vallaud, j'allais dire, en effet, c'est le cas classique. Le gouvernement est interpellé d'une manière très ferme. Ah,
c'était encore
explicite.
Un peu assez courtois.
M. Vallaud a pu reprendre la parole d'ailleurs une deuxième fois, ce qui ne se pratique pas toujours. Et la Première ministre est dans son rôle. En revanche, sur le tout début des questions au gouvernement et peut-être sur la suite, puisque ça n'est pas terminé, là, il y a eu un échauffement dans l'hémicycle qui était très frappant, avec des applaudissements nourris à l'endroit de la Première ministre, d'Aurore Berger, et de l'autre côté, des invectives si fortes du côté de LFI qu'il y a eu un rappel à l'ordre qui a été prononcé par la présidente de séance. Au bout de... juste où on est à l'ouverture de la session parlementaire, on en est au rappel à l'ordre, et pour le coup, c'est rare. Et avec des mots d'oiseaux et des invectives, puisque c'est bien le terme, très violents, du côté de LFI à l'égard du gouvernement. On reviendra sans doute sur le sujet dont il s'agissait. Mais là, on sent des différences explosives entre les groupes. Alors ce qu'il y a, c'est que les alliances vont dépendre des sujets. Et les divergences sont véritablement explosives.
Alors, je ne voudrais pas qu'on s'éloigne trop de l'hémicycle pour une bonne raison, c'est que la question qui suit nous intéresse. On va y aller pour l'écouter en direct. Elle concerne les migrants. On a beaucoup parlé, Jean Messia, c'est un domaine que vous commentez régulièrement sur notre plateau. On a beaucoup parlé du déplacement de plusieurs de ces migrants, de familles entières parfois, dans les campagnes, avec des exemples qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, des exemples et des contre-exemples. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Vous en attendez beaucoup de ce genre de débat dans l'hémicycle autour de ces questions liées à l'immigration, où au fond vous vous dites, on est dans du classique, mais c'est du théâtre et rien ne changera.
C'est du théâtre et rien ne changera, parce que hormis une 89 ou 90 députés du Rassemblement national qui, eux, ont une approche historique, hein, même s'ils ne la rappellent pas forcément ces derniers mois, sur la question migratoire, je crains que tout le reste de l'Assemblée soit acquis à une idéologie immigrationniste aveugle. Lorsque la principale problématique du gouvernement, ce n'est pas d'arrêter l'immigration, ou en tout cas de faire ce qu'il peut pour la limiter au maximum, mais de répartir les migrants, on voit bien dans quelle espèce d'impuissance on est. La répartition des migrants, d'ailleurs, je ne vois pas comment elle va se passer, parce que si vous localisez des migrants dans une zone rurale où il n'y a ni emploi, ni logement... Eh bien, les migrants n'ont d'autre choix
Emmanuel
que de
Berry.
Voler...
Désolé de vous couper, Jean. Voilà. Emmanuel Berry pour le Rassemblement national.
Cette immigration, c'est celle qui sature nos villes et dont vous voulez déverser le trop-plein dans nos campagnes. C'est aussi ce signal clair envoyé aux vagues migratoires prêtes à déferler. La France est à vous. Mais la France n'est pas un hôtel, c'est la maison des Français. Le peuple doit pouvoir décider où quand, comment, pour qui et combien de temps il fait preuve d'hospitalité. 22 000 communes, 2 sur 3, ont fait le choix de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Nous, de la nation, nous les voyons et nous les entendons, ces élus locaux que vous méprisez tant. Reux a besoin de médecins, Hayette a besoin de transports publics, Quéoménil a besoin de subventions pour rénover son église, et dont les maires des petites communes, ce sont eux les véritables Mozart de la finance du quotidien. Nos villages ont besoin de plus de services publics, de plus d'emplois et de plus d'écoles. Non, monsieur le ministre, la ruralité n'a pas besoin de plus de migrants. Ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale que vous souhaitez dissoudre, c'est le pays tout entier. Les Français doivent savoir que leurs élus Rassemblement national font et feront tout pour empêcher cette folie. Nous pensons que c'est le peuple qui doit trancher. Il y a un seul moyen, et vous le connaissez, le référendum. Vous le refusez aujourd'hui, nous le ferons demain. Alors, monsieur le ministre, vous qui avez fait le lien entre immigration et insécurité, allez-vous écouter l'immense majorité des Français et protéger notre douce France, cher pays de notre enfance? Merci.
Je vous remercie. La parole est à madame Sonia Backès, secrétaire d'État en charge de la citoyenneté.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Emmanuel Bléry, le président de la République et le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer l'ont répété, notre politique migratoire doit évoluer. Pour cela, nous devons être plus durs avec ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le sol français et faire plus d'efforts avec ceux qui ont vocation à y rester, pour qu'ils s'intègrent mieux dans la société française, qu'ils y partagent notre langue, nos valeurs, nos règles, nos lois. Ainsi, l'intégration des étrangers en situation régulière est un enjeu majeur de notre politique migratoire. Nous en sommes conscients, le système actuel qui conduit à une concentration anormale dans certains territoires, dans certains quartiers, n'est pas satisfaisant. Est-il soutenable que 50% des demandeurs d'asile se présentent en Île-de-France, là où précisément tous les dispositifs de prise en charge sont totalement saturés? À l'évidence, non. Nous devons donc mieux répartir pour mieux intégrer. Les enfants des étrangers en situation régulière seront les Français de demain. Nous devons tout faire pour qu'ils partagent notre langue, nos valeurs, nos lois, qu'ils intègrent nos entreprises quand elles ont besoin de main-d'œuvre. Au demeurant, ce mécanisme existe déjà. Il fonctionne et il a fait ses preuves pour les demandeurs d'asile. Et nous l'avons testé à grande échelle avec l'accueil des personnes déplacées d'Ukraine. Une grande partie a afflué en quelques jours à Paris, à Strasbourg, à Nice. Une fois l'accueil d'urgence garanti, nous leur avons proposé d'être hébergés partout sur le territoire. Et cela a fonctionné. De la même façon, les déplacés ukrainiens accueillis depuis la Moldavie ont été directement orientés en Nouvelle-Aquitaine. Et cela a fonctionné. La France n'aurait pas été en capacité d'accueillir correctement ces personnes si nous les avions maintenues à Paris, en Île-de-France ou aux abords des métropoles, dans ces quartiers qui souffrent déjà de nombreuses difficultés économiques et sociales. Ce mécanisme, il nous faut aujourd'hui le développer, l'étendre au plus grand nombre, notamment à travers des mécanismes incitatifs. C'est l'intérêt, monsieur le député, de tous les Français. C'est le travail que nous conduisons en concertation avec les territoires.
Je vous remercie, madame la ministre. Monsieur Bléry.
Ah non.
Oui, madame.
On va peut-être écouter le droit de réponse d'Emmanuel Bléry.
Au sujet des Ukrainiens, sachez une chose, les villes qui ont reçu des Ukrainiens ont reçu zéro centime. Voilà, je voulais vous le souligner, madame.
Je vous remercie. La parole est à madame Sabrina Sebaï.
Voilà, après ce droit de réponse pour souligner la situation de ceux qui sont réfugiés d'Ukraine, Emmanuel Bléry pour le Rassemblement national, dont c'était peut-être une des premières questions, je ne sais pas. Jean Messia, je vous ai coupé la parole. Donc là, il nous dit la ruralité n'a pas besoin de plus de migrants dans sa question. Il a fait, évidemment, là il est revenu sur le programme de Marine Le Pen, un plaidoyer pour le référendum en disant c'est le peuple qui doit décider de l'avenir de ces questions sociétales. J'imagine que vous ne le contredirez pas. Sur la ruralité et sur ce que ça a apporté, en fait, que ces déplacements de migrants, vous dites, on court à la catastrophe.
Mais le problème n'est pas un problème populationnel dans ces régions. Qu'est-ce qui fixe des personnes sur un territoire? Ce qui fixe des personnes sur un territoire, c'est le travail, l'activité, les services publics qui sont là. Je veux dire, si ces territoires ont été désertifiés, ils ont été quittés par les Français qui pourtant parfois étaient depuis des générations, c'est bien parce que tout ça, c'est désindustrialisé, c'est désertifié. Je ne vois pas pourquoi, si on bombarde des populations dans les mêmes conditions, qu'est-ce qui les ferait rester là où d'autres avant eux, qui avaient pourtant des attaches, ne sont pas restés.
Donc ça ne les encouragera pas à travailler.
Ça, c'est la première chose. Non seulement ça ne les encouragera pas à travailler, mais comme eux n'ont pas le choix que de rester là où on les a mis, ça va évidemment développer la délinquance et le désordre localement. Et moi, je suis sidéré par ce que vient de dire Madame Sonia Baquès. En matière de grand remplacement, elle est à fond, Baquès. Parce qu'elle dit, si vous voulez, les fils de ces immigrés d'aujourd'hui seront les Français de demain. Mais vous vous rendez compte de la portée de cette phrase? C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas ces immigrés, il n'y a pas de Français.
Elle reconnaît l'état de fait du grand remplacement.
L'état de fait du grand... Non seulement elle le reconnaît, mais elle l'encourage. C'est pour ça que je dis qu'elle est à fond. Elle l'encourage et dit qu'il faut les régulariser parce que c'est les Français de demain. Comme s'il n'y avait pas de Français de souche, comme s'il n'y avait plus de Français qui étaient là depuis 1000 ans, comme s'il y avait une cassure, si vous voulez, au sein du peuple, une cassure de la transmission de ce que nous sommes depuis 1000 ans et qui, avec les macronistes, ne sera plus... Non pas dans 1000 ans, mais dans peut-être 10 ans.
Allez, Jean Garrigue, vous le suivez dans son discours, dans son raisonnement, j'imagine.
Il y a une petite déformation des propos de la secrétaire d'État, mais c'est vrai que sur le fond, ça pose quoi? Ça pose le problème de l'intégration. L'immigration n'est pas un problème. Le problème, c'est l'intégration. Est-ce que la France, aujourd'hui, peut intégrer les 400 000 immigrés qui entrent dans notre pays? Non. Et la solution proposée, qui est noble à l'origine, c'est-à-dire casser les ghettos. Parce que le phénomène de la ghettoisation, c'est un phénomène majeur parce qu'il engendre les trafics, il engendre la surviolence, etc. Casser les ghettos, ok. Essayer de répartir la population immigrée sur le territoire français, très bonne idée. Sauf que le problème, et là je rejoins Jean Messia, c'est que les collectivités territoriales n'y sont pas du tout préparées. Et j'y ajouterais, le vote Front Rassemblement National, nous a montré que dans les campagnes françaises, on ne veut pas de ce mélange. On ne veut pas de ce...
Il le dit, 22 000 communes ont voté pour Marine Le Pen au second tour.
Donc voilà, on est dans une situation... Alors, quant à au règlement de la question par le référendum, moi, j'y crois pas tellement parce qu'on sait ce qui se passe dans un référendum. Les gens votent avant tout pour sanctionner le pouvoir en place, etc.
C'est ce qui s'est... Non, mais attendez, c'est marrant parce que pour le vote du traité de Maastricht, par exemple, on n'a pas dit ça. On a dit, le peuple a parfaitement compris parce qu'il a voté comme les élites ont demandé à ce qu'il vote. Par contre, en 2005, quand il a voté non, alors que les élites appelaient à voter oui, là, on a sorti cet argument. C'est-à-dire qu'en fait, cet argument-là, on le sort uniquement lorsque le peuple ne se plie pas au diktat des élites.
Parce que c'est une tradition qui est née avec le général.
On va intégrer Ludovine de la Rochère dans votre discussion, mais on a coutume de dire quand même que le problème de ce genre de référendum et de ce genre de thématique, de sujet, c'est comment vous posez la question, en fait. C'est ça la difficulté aussi. Avec quelle formulation vous posez la question aux Français si vous décidez de le faire?
Oui, bien sûr, le sujet de la question est extrêmement important. Mais pour ma part, je suis surtout, on est loin malheureusement de se poser la question d'un référendum, ça n'est que le vœu, en l'occurrence, d'un parti politique qui n'est pas au pouvoir. Moi, je suis atterrée par la réponse de cette ministre. D'abord, elle confirme que l'idée, je mets des gros guillemets, est de saupoudrer les immigrants partout, les immigrés sur le territoire français. Donc déjà, c'est confirmé, parce que pour le moment, ça a resté une déclaration d'Emmanuel Macron. Elle y est favorable. Ils vont donc travailler à cela. Dans leur esprit, en effet, il s'agit véritablement d'un remplacement de la population, ni plus ni moins, puisque les immigrés seront les enfants français de demain. C'est ce qu'elle dit. Ouais. Immigrés d'aujourd'hui seront les enfants français
que vous faites
de demain.
Ce sont ces termes. Elle dit que les immigrés, comme d'ailleurs dans toute notre histoire depuis des siècles,
sont les Français
de demain. Immigrés ensuite deviennent des Français. Mais elle ne dit pas que ces immigrés-là vont remplacer les autres Français.
Elle dit « sont les Français de demain ».
Alors elle aurait dû dire « seront des Français de demain ».
Voilà, par exemple.
Ce n'est pas la même chose. Et elle dit « sont les Français de demain ». Alors elle veut peut-être dire « seront Français demain ». Mais néanmoins, de toute façon, connaissant la natalité des femmes françaises, d'origine française, et la natalité, des femmes ayant des papiers français mais d'origine immigrée ou immigrée, on sait de toute façon que c'est ce qui se passe. Par ailleurs, elle parle de l'échec de l'intégration. Elle a raison, mais on voit bien que quand on tente de répartir sur le territoire français ce qu'on a évoqué, on se retrouve avec une montée des violences et de la délinquance aussi dans les petites villes. Et l'échec, il n'est pas sur la répartition ou pas la répartition, il est lié à la masse, à l'ampleur de l'immigration. Et puis, il y a aussi un refus d'intégrer. Depuis des années, on n'essaye plus d'intégrer. intégrer. Ils refusent pour une part de s'intégrer parce que, étant très nombreux, ils vivent de manière communautaire, communautariste, et dans une idéologie qui va très à l'encontre de la France.
C'est la question du rejet en 20 secondes, vraiment.
Il y a un double rejet.
Mais,
en fait.
Un double rejet, exactement. Il y a un double rejet. Et avec toute la bonne volonté du monde,
on va déborder là.
Ça n'est pas possible.
C'est-à-dire, il y a un rejet parce qu'on peut, de la même manière qu'on ne peut pas soigner quelqu'un de force, on ne peut pas obliger les gens à devenir français. Être français, c'est un acte volontaire d'assimilation et d'adhésion à la
France. Merci, on revient.
Personne aujourd'hui, il y a des majorités qui ne le veulent pas.
Je suis désolée, on a la pub à lancer. Je suis désolée, le chrono est lancé. Merci, on a encore une bonne demi-heure pour discuter entre nous et tout à l'heure. La deuxième partie de 90 minutes info, on se retrouve pour évoquer évidemment ce retour des questions au gouvernement aujourd'hui à l'Assemblée dans un contexte très tendu. Vous l'avez vu et vous l'avez vécu sur notre antenne il y a quelques minutes. Le gouvernement interpellé à la fois sur les prix de l'énergie, par deux fois d'ailleurs dans la première demi-heure, la sécurité et aussi les violences faites aux femmes, qui a vu d'ailleurs Aurore Berger s'opposer assez durement au groupe LFI qui était très bruyant à ce moment-là. Bonjour Gauthier Lebret, vous êtes à l'Assemblée, vous étiez aux premières loges. On le dit, hein, cette ambiance, elle est... d'ores et déjà explosive, on le pressentait, mais voilà, la première séance nous a donné le ton, clairement.
Absolument, Nelly, on le savait que ça allait être tendu, que ça allait être chaud dans l'hémicycle. Effectivement, on n'est pas déçus, c'est bien pire qu'avant l'été. Donc vous l'avez dit, Aurore Berger pose une question à la Première ministre sur les violences faites aux femmes pour les 5 ans de MeToo. Et elle fait référence eh bien, à l'affaire Quatennens, à la gifle qu'Adrien Quatennens a donnée à son épouse. Elle explique que dès qu'une femme se fait gifler, elle doit aller porter plainte, elle doit aller saisir la justice car c'est la seule voie possible. Et là, bronca sur les rangs de la France insoumise. Rappel à l'ordre pour Daniel Obono qui est venu ensuite s'expliquer, expliquant qu'elle avait juste demandé 1 milliard pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis Sandrine Rousseau s'est levée dans l'hémicycle au moment eh bien, où Aurore Berger prenait la parole et elle a fait un symbole avec ses mains. Alors elle explique que c'est un symbole en forme d'utérus, un symbole célèbre dans la lutte eh bien, contre les violences faites aux femmes dans les années 70. Mais effectivement, grosse tension au sein de l'hémicycle. C'est minable pour eh bien, Daniel Obono notamment et Mathilde Panot. C'est minable la sortie eh bien, d'Aurore Berger. Et pour Sandrine Rousseau, c'est une claque faite aux femmes. Voilà ce qu'elle nous a dit, Sandrine Rousseau. C'est une claque faite aux femmes. La sortie d'Aurore Berger, puisqu'elle demande la démission aussi de Damien Abad, qui fait partie de la majorité et qui, comme vous le savez, est mis en cause pour de multiples viols.
Merci beaucoup, Gauthier, de nous avoir fait revivre ces instants. Et on passera d'autres séquences, bien sûr, pour les faire commenter par nos invités. Avant cela, on en vient à ce procès de l'attentat de Nice qui... se poursuit aujourd'hui à Paris. On en est à la troisième semaine. Je vous rappelle que l'attaque avec ce camion avait fait 86 morts et plus de 400 blessés sur la promenade des Anglais en juillet 2016. Bonjour Noémie Schulz, c'est vous qui suivez l'audience à la Cour d'assises spéciale de Paris. Et il y a eu aujourd'hui évidemment ce témoignage particulièrement bouleversant de cet homme qui a perdu, lui, 6 membres de sa famille ce jour-là.
Oui, Christophe, 51 ans, le soir du 14 juillet, ils sont 7 de sa famille à assister au feu d'artifice. Lui seul a survécu à l'attentat. J'ai eu le réflexe de me retourner, j'ai vu le camion, j'ai juste eu le temps de me décaler et de le voir passer et de tous les voir. Tous, c'est son épouse, son père, sa mère, son beau-fils, ses beaux-parents. Sur l'écran de la salle d'audience, des photos du dernier déjeuner sont projetées. On les voit tous les 7, visages souriants. Christophe se souvient des minutes qui ont suivi l'attentat. J'allais de corps en corps, je leur disais à tous que je les aimais. On s'aperçoit, poursuit-il, de l'horreur de l'homme, les gens qui courent après pour prendre des photos plutôt que de nous aider, ceux qui volent sur les corps. Il y en avait un sur ma mère, l'horreur de l'humanité. Cet homme raconte la vie d'après, la maison vide, le travail 12 heures par jour pour tenter d'oublier, la violence aussi du fonds d'indemnisation qui lui demande de noter la douleur ressentie. On a envie de leur dire, perds 6 membres de ta famille et tu vas voir ce que tu vas ressentir. Et puis cette culpabilité impropre à tous les survivants. Je me demande souvent pourquoi je suis revenue seule ce jour-là avec mon passé militaire, mes erreurs de jeunesse. C'était à moi de partir. Je ne sais pas pourquoi je suis le seul qui me suis retournée. D'une voix douce, son avocat tente de le rassurer. Vous ne pouviez pas savoir, vous n'êtes coupable de rien. Des mots qui, on l'imagine, ne suffiront pas à atténuer son insondable chagrin.
Merci beaucoup de nous avoir fait revivre ces moments, il faut le dire, assez déchirants. Hein. Chaque jour apporte son lot de témoignages déchirants, forcément, à ce procès, vu le nombre de victimes et de familles directement impactées par tout cela. On va reprendre le débat dans un instant, juste après la chronique écho qui est signée Éric de Rimmatten.
Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général. Nous sommes à deux jours du plus grand rassemblement des chefs d'entreprise à Paris, Bercy, Accor Arena. Ce sera jeudi prochain, le 6 octobre. C'est le BIG, le grand rassemblement des patrons. Alors Patrice Béguet, vous en êtes l'organisateur. D'abord, on aimerait savoir, est-ce qu'en 2023, il y aura encore des aides pour les créateurs?
Mais regardez, France 2030, c'est plus de 50 milliards d'euros pour faire émerger les champions de demain. On le voit avec l'accélération d'entreprises dans notre pays. Et puis tout la dynamique qui est derrière le numérique, l'industrie verte, mais également la biotech, l'agriculture, l'hydrogène, l'intelligence artificielle, la santé. En fait, on sent une accélération des entrepreneurs français pour doubler le nombre d'entreprises en France.
Donc les aides, très importantes, c'est BPI, la Banque publique d'investissement qui est derrière. Mais ce concours, il s'explique comment? Il s'exprime comment?
En fait, BPI France, sous l'impulsion de Nicolas Dufourcq, son directeur général, nous avons 50 implantations territoriales en France, de proximité unique et d'une grande efficacité. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner sur des mesures précises tous les entrepreneurs, qu'ils soient créateurs, start-up, TPE, PME, ETI françaises, et les rendre toujours encore plus performants.
Donc il y a beaucoup de profils différents, mais il y a quand même des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres, non?
En fait, il y a plein de projets, et des projets qui favorisent en fait la redynamisation d'activités économiques de proximité, qui participent localement également au développement de nouvelles activités en lien avec les régions. Clairement, nous allons avoir un grand événement sur la deep tech, autour de l'humain, autour de la terre, autour de l'espace. Et ça, c'est aussi la France réunie qu'on retrouve à BIG.
Très bien, on a compris. Patrice Béguet, rendez-vous donc sur CNews à l'Accor Arena, dans notre studio, jeudi prochain 6 octobre, avec ce grand rassemblement des entrepreneurs.
C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
On se retrouve pour commenter l'actualité en compagnie de Ludovine de la Rochère aujourd'hui, Jean Messia et Jean Garrigue. Et l'actualité, eh bien, elle s'écrit dans l'hémicycle, à l'Assemblée, avec beaucoup de thèmes d'actualité qui sont égrenés à la fois par les questions des partis d'opposition et le gouvernement qui répond souvent avec force argument. Ça a été le cas tout à l'heure lorsque Aurore Berger, qui appartient, vous le savez, à la majorité, a voulu, en parlant des violences faites aux femmes, eh bien, tacler LFI avec ce message à peine voilé à l'adresse d'Adrien Quatennens en disant « On loue la vertu de ceux qui reconnaissent des coups, mais on jette ainsi des dizaines d'années de combats judiciaires à la poubelle ». Regardez cette séquence avec la réaction outrée dans les rangs de LFI.
Depuis plusieurs semaines, on loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violence conjugale. Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme. Depuis plusieurs semaines, on fait fi des règles élémentaires de l'état de droit. On jette le discrédit sur les femmes et les hommes, policiers et gendarmes, qui, au péril de leur vie, interviennent après des signalements de violence conjugale. On jette le discrédit sur l'institution judiciaire. On jette en fait des dizaines d'années de combat de nos associations qui ont permis aux victimes d'être accompagnées par la seule voie qui peut mettre un terme à leur souffrance, la voie judiciaire.
S'il vous plaît, mes chers collègues, seule Aurore Berger a la parole. S'il vous plaît.
Je crois que ce sujet appelle le calme et non le trouble ou le désordre.
Bon voilà, on le rappelle, pendant longtemps, il n'y a pas eu de plainte de la part de la femme d'Adrien Quatennens. Maintenant, c'est chose faite. Voilà, mais en fait, ce qu'elle dénonce et que contestent en fait les députés LFI, c'est cette manière de s'indigner peut-être à géométrie variable.
Oui, absolument. Et puis, il y a la question d'avoir eu recours à la justice ou pas, et ou des pas. Méthodes.
Avec leur comité interne.
Avec leur comité interne contre la violence sexiste et sexuelle. En fait, il y a un peu une course à l'échalote, parce que LFI, LFI et au moins toute une partie de la Renaissance, les uns et les autres sont tout aussi néo-féministes. Alors, bien sûr, il faut se battre contre les violences faites aux femmes. Évidemment, l'égalité homme-femme, ça paraît clair. Il y a un objectif pour tout le monde. Mais derrière cela, derrière ces façades consensuelles, il y a d'autres choses qui sont ce qu'on peut appeler l'idéologie du genre ou plus largement l'idéologie woke. Et on la trouve chez LFI et à Renaissance. Par exemple, Pappen Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, qui est à Renaissance, voudrait lutter contre les stéréotypes de genre. Donc, il y a une proximité idéologique très forte, en vérité, sur ce sujet-là. Après, Et ça se retrouve dans tout un discours très caricatural, très simpliste. Les hommes sont tous, la société est patriarcale, les femmes sont toutes des victimes, etc., etc. Mais il y a une différence de méthode, malgré tout, c'est que le gouvernement appelle à saisir la justice, là où LFI n'a pas appelé à saisir la justice, et a prétendu juger dans l'entre-soi ce qui s'était passé, et puis avec la mise au pilori public d'un certain nombre de personnalités. Mais ce qu'on a trouvé dans MeToo aussi, hein, des dérapages de ce type-là, il y en a eu d'autres.
Sandrine Rousseau, la députée écologiste, elle n'a pas du tout goûté à l'exercice ni à la méthode Aurore Berger. Écoutez ce qu'elle disait. Pour elle, c'est une claque pour les femmes que cette sortie.
Non, mais c'est du...
La lutte contre les violences faites aux femmes mérite bien mieux que des jeux politiciens. Et là, franchement, c'était indécent. Avec Gérald Darmanin, avec Dupond-Moretti, Éric Dupond-Moretti, avec Damien Abad, franchement, c'était indécent. Et on mérite, nos corps méritent mieux que ça, notre justice mérite mieux que ça. Et là, vraiment, c'est une sorte de claque donnée aux femmes, et particulièrement aux femmes qui souffrent.
Jean Garrigue, va trop loin.
Entendre Sandrine Rousseau parler d'indécence, alors qu'elle a cloué au pilori du tribunal de l'opinion Julien Bayou, sur la foi de confidence qui était faite par la femme de Julien Bayou, franchement, là, on est un petit peu interpellé et interloqué. C'est vrai qu'il y avait une part de politique dans l'intervention d'Aurore Berger, il ne faut pas se le cacher. Elle a voulu montrer à la fois les contradictions, et ce sont plus que des contradictions de LFI, qui a un peu de mal à balayer devant sa porte en termes d'atteinte aux droits des femmes, et puis aussi montrer à quel point, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur l'atmosphère de cette première séance, il y a une stratégie de la conflictualité du côté de LFI, c'est-à-dire que c'est tout le temps le désordre, on crie, etc. Ce qui n'est pas le cas des autres familles politiques, d'aucune des autres familles politiques. Il y a quand même une spécificité LFI, il faut le dire.
D'autant qu'il y a 28 questions posées cet après-midi, donc vous imaginez la teneur.
Et là, si vous voulez, Aurore Berger, de manière assez politicienne, il faut le dire, elle a un peu provoqué cette irruption, mais il n'y a pas besoin de les provoquer beaucoup, parce qu'ils l'ont déjà montré lors de la session extraordinaire, ils sont tout le temps à chercher comme ça, à faire le buzz et à faire du vacarme dans l'hémicycle.
Jean Messia.
C'est pas ce que les gens attendent. C'est pas ce que les gens attendent du Parlement.
Il y a effectivement une contradiction entre la morale érigée par la NUPES et la gauche de manière générale, et leurs propres pratiques, l'affaire Quatennens, etc. Bon, ça, j'y reviens pas. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais il y a aussi une autre contradiction qui consiste à s'acharner à déconstruire l'homme blanc, à s'acharner contre les violences faites aux femmes uniquement lorsque ces violences viennent de la part d'hommes non racisés, pour reprendre leur terminologie. En revanche, toutes les violences qui sont faites aux femmes par des hommes en provenance de cultures prévalait en France au 5e siècle de notre ère, il y a un silence assourdissant. On ne les entend pas. Je veux dire, quand vous importez sur le sol des gens qui viennent d'Afghanistan, du Pakistan, de certains pays d'Afrique, dans lesquels, des cultures desquelles la femme, si vous voulez, est réduite à l'état d'objet très souvent, et que ces us et ces coutumes débarquent en France et provoquent effectivement des violences. Pour le coup, pas des violences uniquement conjugales, mais des violences également dans nos rues, toutes les l'augmentation des agressions sexuelles, des viols, etc., dans les centres-villes, Paris, Nantes, etc., en savent quelque chose. Là, les députés de la NUPES, les gens de la gauche de manière générale, et les élites médiatiques gauchisantes silence radio, on ne les entend pas.
Il y a une renaissance, Emmanuel Macron. Et LFI, en effet, jamais n'ont un mot pour les femmes qui ont le voile, qui portent le voile en France.
Non, mais je ne parlais pas de ça, c'est
et elles
sujet.
Prétendent que c'est libre. Mais à propos des femmes iraniennes, c'est la question du voile. Il y a quand même une différence, pour le coup, par exemple, Laurence Rossignol, elle dénonce le voile comme un instrument d'oppression. Et donc, il y a, d'un parti à l'autre, des convergences ou des divergences là-dessus, et là, je généralise pas. Je ne généraliserai pas, et d'ailleurs, il y a eu une manif... ce week-end, en soutien des féministes, en soutien aux femmes iraniennes, mais alors là, il y a eu des conflits terribles entre elles. Mais qu'on entende encore Sandrine Rousseau, honnêtement, je trouve ça aberrant.
Elle a perdu l'occasion de se taire, elle devrait...
Elle est une caricature du féminisme, une mauvaise caricature. Elle est dans le simplisme. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, elle dit les femmes sont victimes, les femmes sont victimes, les femmes sont victimes. Et par exemple, ce week-end, elle a été huée et elle a dit j'ai été huée avec les autres parce que je suis une femme. Pas du tout. C'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec elle. Elle est dans une caricature qui la disqualifie. Pardon, Jean.
C'est juste pour aller dans votre sens, parce que Sandrine Rousseau, pourquoi elle a été huée? Parce que les gens ne comprennent pas qu'elle considère en France le voile comme une libération et qu'elle aille manifester pour des femmes qui meurent parce qu'on les oblige à porter le voile.
On les a entendues, ces manifestantes iraniennes qui disaient il y a trop de dichotomie entre ce qu'elles prônent. Est-ce qu'elle vient défendre
aujourd'hui? On est dans une incohérence totale, mais ça rejoint ce que disait...
Mais on ne devrait même plus écouter ou voir ou entendre ce qu'elle dit. C'est absolument...
Alors, il y a aussi... on va continuer à parler de ce sujet.
C'est une insulte
et de
à toutes les femmes opprimées dans les pays...
Et son attitude aux femmes en général.
On va continuer à parler de ce qui se passe dans les rangs de la NUPES, puisqu'il y a aussi la réponse du berger à la bergère, si vous me permettez cette expression. Deux semaines de silence rompu par Julien Bayou, qui revient aujourd'hui dans l'hémicycle avec une interview au Monde qu'il a accordée ces dernières heures et où, effectivement, on parlait de Sandrine Rousseau, où il dit, elle a confondu féminisme avec macartisme, rien que ça. Regardez le résumé avec Maxime Lavandier.
Sa parole était attendue. Une semaine après avoir démissionné de la direction de son parti, Julien Bayou s'est exprimé pour la première fois dans un entretien publié dans Le Monde. L'ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts déplore l'emballement médiatique et charge son accusatrice, Sandrine Rousseau, estimant qu'elle est allée trop loin.
Il n'y a pas d'affaire Bayou, il n'y a pas d'accusation. Je suis dans la situation de quelqu'un innocent des faits dont on ne l'accuse pas. Elle est allée trop loin et tout le monde le mesure. Pour moi, il ne faut pas confondre féminisme et macartisme.
Julien Bayou pointe également la cellule mise en place par le parti, qu'il juge nécessaire, mais fondamentalement insuffisante.
J'ai demandé à 4 reprises à la cellule d'être auditionnée. Ce principe essentiel n'est pas respecté.
Questionné sur son avenir politique et absent lundi à la rentrée parlementaire, Julien Bayou assure qu'il sera sur le banc de son groupe mardi.
Je n'ai pas quitté mon parti, je continue de penser que l'écologie est nécessaire. Je suis investi d'un mandat, je compte bien le mener.
Le député de Paris et l'ex-candidate à la primaire se retrouveront jeudi et vendredi à Strasbourg pour les journées parlementaires d'Europe Écologie Les Verts.
Alors Jean Messia, c'est un peu un rétablissement des choses, mais là, il n'empêche, le mal est fait de toute façon. Le type a été voué aux gémonies.
Il a été, qui le pleurera, puisque effectivement, il fait partie d'un mouvement. Et lorsque toutes ces structures, si vous voulez, liberticides, et non respectueuse d'un principe simple qui est la présomption d'innocence, non respectueuse de l'état de droit aussi, parce que nous sommes, paraît-il, dans un état de droit où il n'est pas possible d'accuser et d'accabler quelqu'un sans qu'il ne présente des preuves et sans qu'il ne se défende. Donc on ne peut pas s'être tu pendant toute cette phase de construction de cet écosystème liberticide pour venir aujourd'hui se plaindre d'en être une des premières victimes. Mais sur le fond, évidemment... ce que dit Julien Bayou, moi je suis d'accord avec lui, je veux dire, il n'a été condamné par aucune cour, il n'a pu présenter sa défense devant personne, il a été accusé sur la base de commérages plus ou moins fallacieux de la part d'une Sandrine Rousseau dont on connaît à la fois l'incohérence et l'inconsistance, et tout ça donne un procès médiatique qui n'a aucun fondement judiciaire ou pénal.
Jean-Garry, quand il dit, en fait, c'est une chasse aux sorcières, parce que macartisme, pour ceux qui ne savent pas, c'était ça. Hein.
Les communistes,
chasser les communistes pendant la guerre froide aux États-Unis. On n'est pas loin de ça, en fait.
Chasser le mal blanc, c'est un petit peu la stratégie et l'esprit de Sandrine Rousseau. Au-delà des considérations politiciennes aussi, parce que Julien Bayou, c'est un concurrent pour la maîtrise d'Europe Écologie Les Verts. Ça n'est pas absent non plus de ses préoccupations. C'est pas mieux, vous me direz. Mais on est quand même là, effectivement. N'oublions pas qu'il y a eu on a appris qu'il y avait je sais pas comment le qualifier, ce groupe de femmes au sein d'Europe Écologie Les Verts qui a espionné Julien Bayou depuis plusieurs années. Enfin, on est dans quelque chose qui ressemble un peu...
Il y a eu un long dossier, effectivement, dans la presse du week-end là-dessus.
C'est quelque chose de délirant.
Capture si de SMS et d'écran à l'appui.
Moi, si vous voulez, je pense à quelqu'un qui est un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelait Dominique Baudis, qui était journaliste, homme politique, et quelqu'un qui a été victime, lui, il y a une vingtaine d'années, d'une rumeur abominable,
totalement infondée, si vous voulez, et qui l'a conduit, je pense, qui est une des raisons de sa disparition prématurée.
On est jamais remis.
Parce qu'on sait qu'il s'en est jamais remis. Oui. Bah, franchement, là, Mme Rousseau, elle devrait un tout petit peu faire attention. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver à Julien Bayou, je ne lui souhaite pas. Mais franchement, parce que c'est un peu l'arroseur arrosé aussi, Julien Bayou. Là, je rejoins Jean Messia là-dessus. Mais bon, il y a quand même quelque chose là qui fait peu froid dans le dos.
Réaction de Marine Le Pen aussi, qui, concernant ce dossier, ce cas précis de Julien Bayou, eh bien, elle dit au fond. Oui, ok, mais elle aimerait qu'il l'applique lui aussi aux autres, et oui, pas seulement voilà, qu'il voit midi à sa porte. Écoutez.
Voilà pourquoi j'ai peu de respect pour ces gens. C'est qu'en réalité, ils ne redécouvrent les principes que quand c'est à leur propre bénéfice. Mais si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, d'un autre mouvement politique, vous n'auriez jamais eu le même discours de la part de M. Bayou. Donc il a raison quand il dit ça, mais il a raison pour tout le monde. Et moi, j'essaie toujours de me tenir à cette ligne. C'est-à-dire, j'ai des principes, je souhaite en bénéficier, mais je souhaite que tout le monde en bénéficie, y compris lorsque ce sont mes adversaires politiques.
Ludovine de la Rochère. Voilà, c'est toujours cette histoire de s'offusquer, l'idée qu'au fond, on s'offusquerait à
oui, mais
la géométrie
partie,
variable.
Oui, bien sûr, mais ça fait partie des méthodes de LFI, de n'être pas gêné par la contradiction, de n'être pas gêné par leurs propres erreurs, de ne pas être gêné par leur propre dépassement de toute éthique politique, etc. Moi, ce qui me frappe par ailleurs, c'est que Julien Bayou n'a pas compris. Il est lui-même dans la matrice de ce féminisme qui est un macartisme. Par essence, ces néo-féministes type Sandrine Rousseau ou type Madame Panot, etc., Clémentine Autain et d'autres de LFI, considèrent que le mâle blanc est dominateur, qu'il soumet les femmes et que simplement, il y a parfois des symptômes et ces symptômes qu'il faut chercher, il y en a forcément, mais simplement, il faut les trouver. Et quand on les trouve, quelle que soit leur importance, eh bien, ils sont la preuve d'un système, d'un patriarcat, d'un sexisme culturel et d'État. En fait. C'est la culture du viol, si vous voulez.
Oui.
Et cela, Julien Bayou, quand il dit, bien sûr, il faut défendre, et c'est une évidence, c'est vrai, mais il est lui-même dans cette matrice idéologique qui fracture tout et qui est pleine de conséquences. Bon, Sandrine Rousseau, je pense qu'elle est véritablement dangereuse. Elle est, c'est une fanatique. Et en ce sens-là, c'est inquiétant.
Mais vous disiez surtout aussi qu'elle agissait peut-être pour ses propres ambitions personnelles.
Partie,
ce qui voudrait dire que pour elle, la fin justifierait les moyens, d'une certaine manière.
Oui, mais justement, ça fait partie aussi des structures totalitaires. Ça. On est effectivement le wokisme et l'intersectionnalité, c'est sur des systèmes, des grilles de lecture d'une société, c'est exactement la définition de
totalitaire. Mais encore une fois, on les trouve aussi chez Renaissance, pas chez tous, mais chez un certain nombre.
Ça, il faut bien le voir. Je voulais dire, c'est que, si vous voulez, il y a une femme qui a joué un grand rôle dans l'émancipation des femmes, dans le mouvement féministe, qui s'appelle Elisabeth Badinter. À partir du moment où Elisabeth Badinter, qu'on ne peut pas suspecter de...
Tout le monde lui est tombé dessus. Hein.
De compromission.
Pas beaucoup.
Ben oui, mais à partir du moment où elle vous
c'est
dit...
C'est la voix de la raison.
Exactement. À partir du moment où elle vous dit, Sandrine Rousseau, attention, moi je fais plus...
Oui, mais elle a été critiquée... Alors attention, je mets juste un petit bémol et un petit peu de mesure. Elle a été critiquée aussi sur les délais de prescription, sur le fait que les femmes portaient plainte parfois beaucoup trop tard. Il y a des petites choses sur lesquelles elle est peut-être
aussi critiquable. Oui, mais ça c'est pas Sandrine Rousseau. Ça, c'est Sandrine Rousseau, je rejoins ce qui vient d'être dit, elle encourage un nouveau totalitarisme féministe. Quand vous lisez ce que fut l'histoire de l'Union soviétique sous Staline, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire, il suffisait d'être suspecté d'être bourgeois, entre guillemets, ce qualificatif.
On était coupable
revêtant, des réalités absolument parfois invraisemblables. Eh bien, vous étiez au goulag.
Mais alors, attendez,
là, ils ont créé un goulag virtuel dans lequel ils exilent finalement tous leurs adversaires.
C'est ça. Alors, vous ne croyez pas si bien dire, enfin, si je peux me permettre aussi ce jeu de mots, pas le goulag. Tout à l'heure, on parlera de la situation entre l'Ukraine et la Russie. On va passer d'une culture à une autre, avec des déclarations qui n'ont pas franchement rassuré de Vladimir Poutine. Et puis, cette question qui pèse quand même, y aura-t-il à un moment peut-être l'utilisation d'armes nucléaires, ainsi que ça a été brandi. Vous savez que le Tchétchène Kadyrov l'appelle de ses voeux, quoique dans un contexte particulier. Et bien nous, on a posé la question à l'ambassadeur de Russie, qui était... C'est aussi en France, bien sûr, à Paris, qui était l'invité de CNews ce matin. On écoutera des extraits tout à l'heure. – 15h30, ravi de vous retrouver sur l'antenne de CNews, juste avant de reprendre le débat où nous l'avions laissé, le Flash Info, avec Mathieu Devez.
La France est actuellement en pleine 8e vague de Covid-19. 8690 nouveaux cas confirmés hier, plus 16% en une semaine. Les hospitalisations augmentent aussi avec près de 700 nouvelles admissions quotidiennes. Et dans ce contexte, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires étudie la possibilité d'un retour du masque obligatoire dans certains lieux. Téhéran accuse Joe Biden d'hypocrisie. Selon les autorités iraniennes, il aurait mieux fallu pour Joe Biden de réfléchir au bilan de son pays en matière de droits humains avant de parler de la situation humanitaire en Iran. Le président américain a promis de nouvelles sanctions contre le pays en raison de la riposte des autorités aux manifestations. Des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans morte le 16 septembre, quelques jours après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. Enfin, une information qui ne va pas réconcilier le sport et la lutte contre le réchauffement climatique. Les Jeux asiatiques d'hiver auront lieu dans le désert d'Arabie Saoudite. Près d'une cinquantaine d'épreuves sur neige ou glace devront se dérouler à Neom, une mégapole futuriste en construction près de la mer Rouge.
Et on ne manquera pas de le commenter tout à l'heure, parce qu'on va parler de la Coupe du Monde de foot au Qatar. En tout cas, avant cela, c'est cette question qui agite en ce moment les chancelleries. Vladimir Poutine peut-il aller au bout de sa logique, de son entreprise et de ses menaces, surtout concernant l'utilisation d'armes nucléaires? L'ambassadeur de Russie en France était notre invité aujourd'hui. Écoutez comment il analyse la situation, comment il rappelle de son point de vue le cadre d'utilisation des dites armes.
La doctrine nucléaire russe est très précise. Il n'y a que deux éléments qui permettraient de faire recours à l'arme nucléaire. Premièrement, c'est l'attaque avec l'utilisation des armes nucléaires contre la Russie ou ses alliés, ou l'attaque à l'arme conventionnelle, mais à condition que c'est l'existence même de notre État qui en est sous menace. Et donc l'approche n'a pas changé. Pour l'instant, il n'y a pas de raison d'utiliser des armes nucléaires tactiques.
Le président... Bon, ça c'est clair quand même comme explication.
Alors c'est clair, mais il y a une ambiguïté. Voilà, ça a l'air clair. Mais il dit sur le territoire de la Russie. Alors il sait très bien que personne, contrairement à ce qu'a dit Poutine lui-même d'ailleurs, ils savent très bien que personne ne compte attaquer la Russie. Seulement maintenant, il y a les territoires annexés. Donc en réalité, il se laisse une petite ouverture à travers cette ambiguïté, premièrement. Et deuxièmement, dans les commentaires, j'ai entendu que ce pour l'instant inquiétait beaucoup. Mais c'est la voix de son maître. Il est ambassadeur de Russie en France. Et donc il relaie forcément cette pression que veut exercer Poutine en brandissant cette menace de manière directe lui-même dans ses mots, et puis qu'il fait brandir par d'autres.
Donc on n'est pas allé plus loin dans le descriptif, ou peut-être pour diffuser les tensions qui pouvaient peser tout le week-end.
Alors déjà, Poutine a effectivement annexé des territoires, mais c'est des territoires qui ne sont pas ou pas complètement contrôlés. Donc il a quand même en cela innové. C'est-à-dire d'habitude, on contrôlait un territoire avant de l'annexer, là il fait un peu l'inverse. Bon.
Au moins sur deux régions, il a très peu de territoire.
Oui, c'est ça. Comprennent qu'ils
sont en train d'être reconquis.
Voilà, exactement. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on parle, il faut le préciser, quand on parle d'usage de l'arme nucléaire, c'est l'arme nucléaire tactique. Donc c'est une arme nucléaire qui est de faible charge et qui entre finalement dans la panoplie des armes conventionnelles, mais à un niveau au-dessus.
C'est des ogives,
c'est pas Hiroshima, quoi.
Ils en ont 2000 quand même. Donc,
oui, tout à fait. Mais je veux dire, une arme nucléaire tactique, c'est pas une arme nucléaire tout court. C'est ni Hiroshima, ni Nagasaki. Donc il faut l'expliciter. Et la troisième chose, si vous voulez, c'est que je pense pas que Vladimir Poutine prendra ce risque. D'abord parce que son propre état-major risque de ne pas le suivre. Et donc l'utilisation de cette arme pourrait signer également la désolidarisation de tout ce qui soutient aujourd'hui en interne Russie le pouvoir de Vladimir Poutine, et surtout tous ces nouveaux alliés que sont la Chine, l'Inde, etc., eux aussi freinent des cas de fer pour pas qu'il aille vers là. Donc il est quand même pris dans un étau à la fois en interne et à l'international pour pas s'en servir. Après, effectivement, dans une sorte de
fuite
en avant, tout est toujours possible.
Non, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. On s'est beaucoup ému parce que c'est Kadyrov, le dire tchétchène, qui a parlé de cette menace nucléaire, bon, mais Kadyrov, c'est pas Poutine.
Enfin, Dmitri Medvedev aussi, là, peut-être.
Oui, signifié. C'est vrai que, mais comme le disait Lodivine,
il se ménage un petit peu cette porte de sortie avec ces fameux référendums et ces territoires qui feraient partie de la Russie, qui en fait ne font pas partie de la Russie, mais aux yeux de la communauté internationale. Mais si vous voulez, le risque de l'arme nucléaire est un risque qui fait partie des politiques de dissuasion. Oui. Donc c'est
et qui conduit à une guerre psychologique.
Et puis autre question.
C'est presque logique qu'il soit brandi. En revanche, moi ce que je vois aussi, c'est que Kadyrov, par exemple, il a émis des critiques sur la manière dont le haut commandement russe gérait la guerre, etc. Ça commence un tout petit peu à bouger.
Oui. Autre question qu'on s'est posée, les fameuses sanctions, vous savez, dont certains réclament d'ailleurs l'extension aujourd'hui à l'égard, à l'encontre plutôt de la Russie. Est-ce qu'elles portent leurs fruits? Pas sûr, si on écoute encore une fois, encore lui, l'ambassadeur de Russie en France.
Mais les sanctions, par ailleurs, donnent à notre économie la possibilité de s'adapter. Cette année, par exemple, nous avons de très bonnes récoltes des céréales. Nous n'avons pas de problème quant à l'approvisionnement en produits alimentaires. Et d'ailleurs, nous sommes prêts à livrer au moins 30 millions de tonnes des céréales aux pays qui aujourd'hui sont au bord de la famine.
Alors Jean Messia, il ne donne pas l'impression d'un pays effectivement qui est étranglé par... par ces sanctions, parce qu'il peut se tourner évidemment sur sa façade est, hein, il le rappelle à loisir.
Exactement, je pense que jusqu'à présent, la Russie était très dépendante de la technologie occidentale et elle va simplement faire ce qu'on appelle en économie un phénomène de substitution, c'est-à-dire elle va substituer la technologie chinoise à la technologie occidentale. Donc en fait, la Russie se jette quand même un peu pieds et poings liés dans les bras de la Chine, dont elle va devenir dépendante, parce qu'elle crée une nouvelle dépendance. Après, si vous voulez, moi je suis très sceptique quant à la capacité de sanctions économiques ou même financières à infléchir un régime à court, moyen, voire à long terme. Je vous rappelle qu'un pays comme Cuba est sous sanctions depuis 60 ans. Je n'ai pas l'impression que même au bout de 40 ans, Castro ait cédé le pouvoir en raison de ces sanctions. L'Iran, dont on a parlé il y a un instant, est sous sanctions depuis très longtemps, depuis 1979, et ça s'est accentué encore avec la présidence de Nicolas Sarkozy et les Américains. Le régime des mollahs est toujours là. Donc, à court, moyen ou même long terme, les sanctions sont, me semblent quand même extrêmement aléatoires quant à leurs effets. En revanche, la technologie occidentale alliée à la combativité des soldats ukrainiens, voilà qui peut faire pencher la balance sur le terrain, parce que c'est sur le terrain que la bataille se décide, et c'est effectivement la victoire qui doit être recherchée, une victoire militaire, avant de penser faire plier un pays comme la Russie par les sanctions.
Et on voit que les pertes militaires sont plus conséquentes ces dernières semaines.
Alors oui, effectivement, il semble, mais à vrai dire, moi je pense que cet autre propos de l'ambassadeur sur l'état économique de la Russie est aussi, comme sur le nucléaire, de l'ordre de la guerre psychologique, c'est-à-dire qu'il sait que nous allons mal, il sait que nous sommes inquiets. Inflation, crise économique à venir. Et donc, il en profite pour dire d'autant plus, mais nous allons très bien. Et vos gouvernements, ce sont eux qui vous ont mis dans cette situation. Et donc, je pense qu'il utilise cette arme. En vérité, l'état réel de la Russie aujourd'hui, on n'arrive pas très bien à savoir.
Parce que, y compris sur le plan des pertes humaines. Hein.
Oui, en réalité, il y a une guerre de désinformation aussi, forcément. Et se tourner, hein. Quant à la Russie, pour se tourner vers sa façade est, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, ça ne doit pas être si simple, ça n'est pas vrai, je n'y crois pas, pour ma part. On sent d'ailleurs qu'il y a des choses qui se fissurent autour de Poutine. On sent en effet des critiques émerger, mais quoi qu'il arrive, pour les dizaines d'années à venir, le fait que la Russie se détourne de l'Europe est infiniment désolant.
Le dernier mot, vraiment dernier mot pour Jean Garrigue.
Non, juste pour dire, c'est vrai, je pense que ce qui est en train d'advenir là, c'est qu'on voit que le réflexe patriotique ukrainien et l'expertise de l'armée ukrainienne sont en train quand même de faire...
Et les milliards injectés par les États-Unis quand même. Hein, 100 milliards d'aide de défense, c'est du jamais vu. Hein.
La formation de leurs militaires.
J'allais le dire, la formation de leurs militaires. Non, mais je veux dire que c'est sur le terrain aussi que les choses vont se dénouer.
Merci à tous les trois d'avoir commenté cette actualité dense. On est parti de l'hémicycle pour arriver à la guerre en Ukraine. J'aurai plaisir à vous retrouver, bien sûr, un petit peu plus tard pour certains d'entre vous, cette semaine sur ce même plateau. Dans un instant, on cède la place à Laurence Ferrari et ses invités pour le début de Punchline. Excellente fin d'après-midi sur l'antenne de CNews.